Bonjour Mathieu, est-ce que vous me recevez?
Très bien mon cher.
Allô, allô.
Allô.
On se retrouve au studio Zef.
Studio Zef.
Pour découvrir ce studio, ce qu'il propose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus?
Oh bah c'est une radio qui est depuis 13 ans, depuis 2008.
Je suis assez nul en maths, mais ça fait assez longtemps, je vais pas faire le calcul. Je ne sais pas le faire.
Abois et abandonne.
Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième émission de Studio Camille, l'émission du club radio du lycée Camille Claudel. Une émission de lycéens volontaires qui se réunit tous les lundis pour produire des chroniques à sujets variés. Aujourd'hui, nous entendrons les voix de
Maxime,
Thémis,
Loan,
Mayeni,
Lou,
Liana.
Nous allons commencer par écouter la chronique cinéma de Mayeni et Thémis.
Connaissez-vous le film Gourou? Mais si, le thriller de Yann Gozlan, celui qui a fait Boîte Noire en 2021 et Un homme idéal en 2015. Et cette année, il a sorti un film le 28 janvier 2026 avec Pierre Niney en personnage principal. Oui, oui, et coproducteur aussi.
Dans ce film, on raconte l'histoire de Mathieu Vasseur, un coach en développement personnel. Il est chef d'une grosse entreprise au niveau national et bientôt international. Le Parlement fait une enquête sur le coaching pour décider si oui ou non un diplôme serait obligatoire pour exercer ce métier, ce qui met en péril la carrière de Monsieur Vasseur.
Dans ce film, il y a une question importante. Connaissons-nous vraiment les personnes que nous idolâtrons? Matt est le parfait exemple. Il est là pour les personnes qui l'écoutent et qui payent sa formation, mais jamais réellement il ne dévoile qui est Mathieu Vasseur et il laisse paraître des aspects de sa personnalité et de son passé, mais personne ne sait vraiment ni qui il est ni ce qu'il a vécu.
Mais pourquoi le film s'appelle Gourou? Quand on dit gourou, on pense à une secte. C'est la critique qui est faite dans ce film. En effet, vous pensez peut-être que les coachs de vie sont des arnaqueurs, qu'ils veulent que le contrôle de tous ceux qui participent à ces séminaires, mais pour Mathieu, c'est bien plus que ça. C'est donner l'opportunité aux gens de devenir celui qu'ils ont envie d'être, d'où sa célèbre phrase.
Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es.
Mais toi, t'as aimé le film ?
Oui, c'est un film très intéressant, rempli de retournements de situations où l'on se prend facilement à l'histoire. Et toi?
Franchement, j'ai bien aimé dans l'ensemble. L'histoire est intéressante et compréhensible, mais il y a quand même des choses que j'ai pas aimées.
Ah oui, comme la femme du coach Matt.
Oui, la blonde, là, qui croit tout ce qu'on lui dit.
Oui, mais tu sais, si tu n'aimes pas le personnage, ça montre que leur jeu d'acteur est excellent.
Oui, c'est vrai. Mais certains personnages ne sont pas assez développés.
Oui, comme Christophe, le chauffeur de Matt, c'est vrai que j'aurais aimé savoir pourquoi il agit comme ça.
Mais il y a des trucs bien dans ce film, comme le suspense qui est présent à chaque scène.
Oui, surtout à la fin, on ne sait pas ce qui va se passer après.
Malgré tous les points négatifs, c'est quand même un très bon film.
Si vous aimez les thrillers, drames ou les films paranoïaques,
ou si vous aimez Pierre Niney,
foncez à Cap Ciné car il est encore diffusé à l'heure où on vous en parle.
On vous dit à la prochaine pour une nouvelle revue film.
Place maintenant au micro-couloir portant sur une question intéressante, c'est quoi l'amour ? We could leave the Christmas lights up till January. This is our place, we made the rules.
Pour vous, c'est quoi l'amour ?
Donner sans compter.
C'est d'avoir des papillons dans le ventre. Hein.
C'est un sentiment. Bah, ça se décrit pas, ce sentiment. C'est impossible à décrire.
Bah, c'est une passion, c'est un ressenti de sentiment, c'est de la confiance, c'est tout ça, tout ce genre de choses.
C'est se sentir bien avec une personne, peu importe qui c'est.
C'est le fait d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est et pas pour son physique.
C'est aimer quelqu'un sincèrement, sans se soucier de tout ce qui se passe autour, de tous les gens qui disent des critiques ou qui dénigrent chaque personne.
L'amour, c'est un sentiment, c'est quand on aime, c'est quand on aime sans savoir pourquoi.
L'amour, c'est un sentiment que j'ai envers pour mon ex.
Moi, l'amour, c'est plus rien vu que je me suis fait larguer. Je me suis fait larguer alors que on était en bien, voilà. Il avait son premier amour et puis c'était tout.
L'amour, en fait, c'est qu'on est trop jeune pour connaître le vrai amour, je pense, en vrai. Ça veut dire que j'ai pas de réponse à cette question.
Pour moi, l'amour, c'est un sentiment et c'est quelque chose de grand, on va dire comme ça.
C'est quand on pense à la personne qu'on aime avant nous.
C'est le fait d'aimer quelqu'un, avoir des sentiments, ressentir le besoin d'être avec une personne.
C'est ressentir des sentiments pour une personne et
avoir le besoin d'être à côté d'une personne régulièrement.
L'amour. Bah, ça dépend, il y a différents types d'amour. Il y a l'amour que tu peux ressentir pour un ami, pour quelqu'un qui a des sentiments amoureux. Ça peut être de l'amour envers du matériel. Voilà, il y a différents types d'amour. Matériel, amour matériel. Ça peut être quelque chose à qui t'es attaché sentimentalement, qui te fait penser à quelque chose ou à quelqu'un. Et que franchement, voilà, que t'apprécies. Ça se trouve, ça peut être un vêtement que t'aimes bien porter, qui te met en valeur. Voilà, tout simplement.
C'est des problèmes, mais c'est un peu mignon quand même.
Je pense que c'est genre penser toujours à la personne.
Pour moi, l'amour, c'est le fait d'être vu, d'être compris et d'être aimé comme on est en fait, avec tous nos faiblesses, tous nos erreurs, nos fautes, nos manques.
L'amour, oh là là, c'est quand, par exemple moi c'est quand je pense à elle car que je suis avec mes amis au moment où je ris le plus, où je voudrais qu'elle soit avec moi pour qu'elle rie avec moi.
C'est quoi l'amour? C'est quand deux personnes s'aiment tellement fort que ça dépasse le quantifiable.
C'est quoi l'amour? C'est quand tu es capable de faire des choses sans rien attendre en retour de cette personne.
Pour moi, l'amour, c'est d'abord aimer son prochain et donc accepter tout le monde tel qu'il est.
Pour moi, l'amour, genre, c'est vraiment vouloir passer des moments avec la personne, vouloir être avec la personne tout le temps et tout.
Pour moi, l'amour, c'est quand on est prêt à tout sacrifier pour la personne avec qui l'on est, qu'on est prêt à donner sa vie, son argent et tout ce qu'on a de plus cher pour la personne qu'on aime. Parce que l'amour, c'est une des choses les plus belles qui existent sur cette planète. Et n'oubliez pas, la seule chose qui est plus forte que la haine, c'est l'amour.
Ambiance canapé, télé jusque tard. Voilà, je suis dans un mauvais mood. On m'attend quelque part. Les rues s'allument, les gens sortent comme hier. Les filles sont belles sous ce ciel couvert. Who the hell do you think you are? Seeing in
maintenant, Lou et moi-même allons pouvoir vous parler du stress avec l'intervention de Madame Le Calvé, CPE au lycée Camille Claudel. Rebonjour, c'est Liana et Lou, et on est reparti pour une nouvelle chronique, portant cette fois-ci sur le stress avant les examens. Presque tout le monde est plus ou moins nerveux avant un examen. Le véritable stress des examens, en revanche, va au-delà de la nervosité normale. Le stress des examens peut nous empêcher de nous souvenir des connaissances que nous avons. Dans le pire des cas, des symptômes physiques peuvent apparaître. Le stress des examens peut survenir dans toutes les situations dans lesquelles les performances personnelles sont évaluées. Il peut s'agir de compétitions de sport ou de loisirs. Cependant, les situations les plus fréquemment concernées sont les examens écrits ou oraux à l'école, pendant les études ou dans la vie professionnelle. Dans de telles situations, une légère tension peut même être bénéfique et mobiliser notre énergie. Mais si la peur est trop forte, le contraire peut se produire. Souvent, plusieurs jours avant l'examen, une forte agitation et des troubles du sommeil s'installent. Juste avant le test, la peur se manifeste physiquement sous forme de transpiration, de tremblements, de nausées, d'envie d'uriner ou bien de diarrhée. Le stress des examens peut se manifester aussi bien chez les enfants et les jeunes que chez les adultes. Nous allons donc voir qui est touché par ce fameux stress, pourquoi et comment, mais surtout les solutions pour lutter contre le stress. Lou, je te laisse la parole.
Bonjour à tous, merci Liana. Je voudrais d'abord commencer par souligner que près d'un enfant sur cinq souffre de stress des examens, d'après les enquêtes réalisées par l'Institut de sondage Forsa. En fait, souvent s'ajoute à une faible estime de soi la pression des enseignants ou des parents. Il en résulte une grande crainte de ne pas satisfaire aux exigences. Cela paralyse littéralement l'enfant et, dans une spirale descendante, entraîne exactement ce qu'il redoute. Les hormones de stress augmentent, l'enfant n'a plus librement accès à ses connaissances, cela entraîne une panique toujours plus grande.
Mais cela se manifeste comment chez les adultes ?
Eh bien, ceux qui en sont touchés se sentent souvent extrêmement sous pression dans les situations d'évaluation, telles que les tests de recrutement au travail ou les examens pendant leurs études. Pourtant, cette pression vient souvent de la personne elle-même. Elle peut résulter d'un perfectionnisme, d'exigences excessives envers soi-même ou d'une tendance accrue à l'autocritique. La possibilité d'échouer au test ou à l'examen se transforme en épée de Damoclès, accablante et omniprésente.
Et physiquement, ça donne quoi ?
Le stress des examens est source de nervosité et d'agitation. Il entraîne la sécrétion d'hormones de stress qui se manifestent souvent par des symptômes physiques. Le pouls et la tension artérielle augmentent. Transpiration et tremblements en sont les conséquences. La bouche peut s'assécher et on sent souvent son cœur battre très fort. Certaines personnes concernées doivent sans arrêt se rendre aux toilettes avant un examen, souffrent de maux d'estomac, de diarrhée, de nausées ou de grondements d'estomac. Il existe souvent une interaction entre la peur et ses répercussions physiques. La peur entraîne des réactions de stress. Si celles-ci sont trop prononcées, elles réduisent la capacité d'attention et de concentration. On trouve alors les bonnes réponses moins rapidement. La panique augmente, ce qui affecte encore davantage les performances, jusqu'au blackout total.
Mais en fait, c'est un cercle vicieux.
Bien sûr, car en plus de stresser à l'idée de l'examen, on se met à stresser de ses conséquences elles-mêmes.
Il existe des effets à long terme ?
Tout à fait, le stress des examens peut avoir des effets à long terme, en plus de ses effets à court terme. Certaines personnes sont déjà stressées ou nerveuses plusieurs jours ou plusieurs semaines avant la situation d'examen. Cela peut entraîner des troubles du sommeil. En fait, quand la peur s'installe, dès la phase d'apprentissage, il devient difficile d'apprendre. Le stress permanent peut également entraîner des tensions dans le dos et la nuque, des maux de tête, un état d'irritabilité ou un état dépressif et des problèmes de concentration. À long terme, les hormones de stress peuvent même favoriser de nombreuses maladies, telles que les maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi il est important de combattre les formes sévères de stress des examens par des mesures appropriées.
Alors dans ce cas, comment combattre ce stress ?
Tout d'abord, bien se préparer et apprendre correctement permet d'éviter le stress de l'examen, que le stress de l'examen ne prenne dès le départ de trop grandes proportions. Mais des pauses doivent également être prévues dans l'apprentissage. C'est pourquoi il est important de commencer tôt à se préparer et à apprendre. Ensuite, on peut apprendre à penser plus positif. Pour cela, il faut d'abord reconnaître les pensées négatives. Souvent, des mots comme « toujours » ou « jamais » témoignent d'une approche tout noir ou tout blanc. L'idée, c'est d'apprendre à nuancer tout cela.
Tiens, cela me fait penser à notre dernière chronique sur le sport. Mais est-ce que le sport ne peut-il pas avoir un impact positif sur cela ?
Et oui, le lien que tu fais est tout à fait pertinent. Rien de tel que l'activité physique pour déstresser. Mais les situations de contacts sociaux et les distractions permettent également de réguler les hormones de stress et de se vider la tête. D'où l'importance, pendant les phases d'apprentissage stressantes, de prévoir des séances de sport, d'aller se promener régulièrement ou de rencontrer des amis.
Mais dis-moi, j'ai entendu dire qu'il existait des techniques de relaxation. Tu peux m'en parler ?
Oui, lorsque nous sommes tendus, nous respirons plus vite. Inversement, lorsque nous respirons lentement, notre sensation de stress diminue. Alors, il existe des techniques rapides et discrètes utilisables pendant un examen. Par exemple, inspirez profondément pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Vous pouvez aussi utiliser les applis de cohérence cardiaque comme Respirelax. Par ailleurs, la méditation est également un excellent moyen pour éviter de stresser avant un examen. En effet, elle apaise votre esprit et améliore votre concentration.
On a déjà abordé un certain nombre de techniques, mais il me semble qu'on n'a pas parlé d'un point essentiel, celui du sommeil.
C'est vrai, le sommeil permet de réguler les hormones de stress et de reconstituer les réserves de l'organisme.
Je te propose désormais de terminer par l'alimentation, un autre point qui me semble très important.
En effet, la tension réduit souvent l'appétit et donne envie de manger des sucreries malsaines. Pourtant, c'est précisément maintenant qu'une alimentation saine, équilibrée et riche en vitamines et en minéraux est particulièrement importante.
Mais est-ce que pendant l'examen, le mouvement peut être une solution ?
Bien sûr, on peut par exemple profiter d'une pause pipi pour faire des exercices d'assouplissement ou d'étirement.
Merci Lou pour tous tes précieux conseils. Toutefois, nous tenons à rappeler que si le stress est si fort qu'il affecte gravement votre vie quotidienne, il est important d'en discuter avec un médecin ou un psychothérapeute. Et maintenant, nous allons écouter Madame Le Calvé sur ce thème.
Bonjour Madame Le Calvé, pourriez-vous vous présenter ?
Bonjour, Déborah Le Calvé, je suis CPE au lycée Camille Claudel depuis 2018.
En quoi consistent les ateliers aisance à l'oral et gestion du stress que vous animez ?
Alors les ateliers aisance à l'oral, ils se sont vus naître un peu en réaction. Alors en réaction grâce ou à cause, je ne sais pas, un peu de la réforme du lycée et du grand oral aussi qui a été mis en place avec cette réforme. Et on s'est dit à plusieurs professeurs, notamment les professeurs documentalistes et quelques autres professeurs, qu'il serait intéressant de mettre en place un sorte de protocole, de petites séances, d'ateliers en lien avec l'aisance à l'oral. Alors le but, ce n'est pas de travailler le fond, c'était de travailler la forme et de travailler sur des ateliers très spécifiques. Donc on avait au départ 5 ateliers, on était sur la lecture à voix haute, la question de la prise de parole, la gestion du stress, sur le corps aussi, comment mobiliser son corps, et puis on était sur des ateliers de diction, donc c'était 5 ateliers d'une heure qui se filaient en général sur 5 semaines. Donc on avait les professeurs documentalistes très investis, Madame Terlon, qui font toujours partie du groupe Aisance à l'oral, Madame Terlon, professeur d'espagnol, Madame de Genève, professeur d'anglais, Madame Marinoni, il y avait aussi Monsieur Bosque qui intervenait dans un cinquième atelier de théâtre en fait, et qui a été enlevé parce que c'était un petit peu compliqué à mettre en place parce que c'était sur 2 heures. Et c'était plus compliqué de trouver 2 heures complètes avec les élèves. Mais on reste sur 4 ateliers désormais et sur les intitulés que je vous ai évoqués précédemment.
D'accord. Faites-vous référence à des méthodes particulières durant ces ateliers ?
Alors moi, j'interviens plus particulièrement sur la gestion du stress et je reprends un peu ce que tu as dit. En fait, on travaille avec les élèves qui sont inscrits et volontaires sur la respiration carrée. Donc c'est ce que tu expliquais, respirer 4 secondes, bloquer 4 secondes, expirer 4 secondes, bloquer sur plusieurs cycles. On parle aussi de la cohérence cardiaque, respire relax, voilà, ça c'est aussi important. Moi, je leur parle aussi de la question du mise en mouvement. Tu parlais de sortir de la salle, de se mettre en mouvement. Et effectivement, bouger, ça fait partie aussi des outils qui peuvent aider le cerveau à se déstresser. Donc, on parle de pendiculation. Donc, la pendiculation, c'est pas très compliqué. C'est juste bâiller aux corneilles sans trop de bruit. Mais en tout cas, s'étirer et bâiller. Et ça a un effet sur le système parasympathique, donc voilà, de déstress. Je parle aussi, il y a un exercice qu'ils aiment bien en général, les élèves, c'est les cinq sens. Quand on est dans une bulle de stress un peu, où on ressasse un peu des idées compliquées, où on n'arrive pas et on s'enferme un peu, c'est un exercice hyper rapide qui fait qu'on se décentre un peu des difficultés, donc on se focalise sur nos cinq sens. Voilà, on cherche cinq choses que l'on voit, quatre choses que l'on touche, trois choses que l'on sent, deux choses que l'on respire et un sentiment au goût. Et en fait, se chercher ça, se centrer sur soi et sur ses émotions, ses sentiments, mais tout basique, ça permet de sortir un petit peu des fois de cette bulle de stress. Et puis, on travaille un peu sur le scan corporel. Vous parliez du sommeil. Moi, je leur fais faire un scan corporel. Donc ça, c'est des applications toutes simples aussi. Et ça permet en fait de... Alors moi, j'ai vraiment eu des élèves qui se sont littéralement endormis en séance, ronflement à l'appui. Pour voilà, ça apprend à faire un petit scan de son corps, du haut de la tête jusqu'aux orteils. Et ça permet de, voilà, de des fois tomber dans le sommeil. Et des fois, on travaille un petit peu, si on a le temps, sur la flexibilité psychologique, c'est-à-dire d'anticiper ce qui nous met en stress, d'essayer de le comprendre, quelles émotions ça engage, et pour essayer de travailler dessus. Et c'est juste de la compréhension de soi, quoi. Voilà.
Vous l'avez déjà un peu abordé, mais d'où est venue cette idée d'atelier ?
Oui, alors je leur dis grand oral, mais en fait, ça a été un... On a senti quand même que les élèves, ils avaient besoin d'outils, de parler de comment se mettre en valeur à l'oral en général. Et vous l'avez très bien expliqué pour Parcoursup, quand il y a des entretiens d'embauche, job d'été, pour le futur, enfin pour le bac de français. C'est vrai que l'oral, c'est important. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de parasites chez les élèves, le du coup, grave, des mots qui ressortent régulièrement, et d'essayer de travailler aussi là-dessus, sur des petits parasites verbaux, des fois non-verbaux, des gestuels qui pouvaient... Donc on travaille aussi là-dessus, sur cette posture, et ça peut leur servir à n'importe quel moment.
Pensez-vous que le stress est quelque chose de tabou chez les élèves ?
Je pense pas que ça soit tabou. Moi, je trouve que c'est de moins en moins tabou et c'est très bien d'ailleurs. Je trouve que les générations actuelles en parlent de plus en plus, peut-être parce qu'elles en subissent plus, j'en sais rien. En tout cas, c'est un vrai sujet. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important, tous les cas, qu'ils verbalisent assez bien. Et les différentes, voilà, tu parlais des statistiques. Moi, je suis revenue avec mon petit statistique aussi, la santé mentale et le bien-être des élèves qui vient de sortir. Hein, ça a été publié en 2024, donc, et c'est assez prégnant. Alors, il faut aussi être optimiste. Hein, il y a quand même beaucoup d'élèves qui se sentent plutôt bien, mais qui peuvent être sujets à du stress ponctuel, notamment des évaluations, du futur, de l'éco-anxiété. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et moi, je le dis, en fait, c'est la définition que je donne du stress, et c'est l'OMS qui la donne, donc c'est pas que moi, mais ça apparaît chez une personne dont les ressources et les stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. Donc, en fait, c'est gérer tout toutes ces exigences et donner des outils pour le gérer. Voilà. Mais globalement, ils vont bien, nos élèves aussi.
Merci. Y a-t-il des choses à améliorer au sein du lycée pour éviter de générer ce stress ?
Vaste question. Alors, j'ose espérer que le climat scolaire de notre établissement est plutôt propice à un stress un peu atténué, même si je ne suis pas dupe sur... voilà, sur le système scolaire tel qu'il est et qui induit forcément un stress. La réforme du lycée a induit aussi plus de stress, un contrôle continu. Voilà, le poids des évaluations qui ont encore plus de poids actuellement. Donc, on constate hein, tous que ça induit plus de stress. Je ne sais pas si au lycée Camille Claudel, on gère mieux qu'ailleurs, je ne crois pas. Peut-être ce qui change, c'est que c'est un lycée peut-être à taille humaine, où on se connaît tous un peu, on est moins anonyme, et pour le coup, on trouve toujours quelqu'un, un prof, un personnel de santé, CPE, AED, à qui on peut discuter, et on se connaît plutôt bien. Donc je me dis que c'est peut-être aussi ça la solution, un petit environnement qui permet un climat scolaire propice et le soutien et l'entraide entre personnel, entre pairs aussi.
Bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Now I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill their sorrow. Some people wanna fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me, nigga, why you babysitting? Only two or three shots, I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch you all flock. All the girls wanna play, babe, watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it.
Pour, drink, headshot, drink, sit down, drink, stand up, drink, pass out, drink, wake up, drink, faded, drink, faded,
drink, okay, now open your mind up and listen to me, Kendrick. I'm in your conscience, if you do not hear me, then you will be history, Kendrick. I know that you're nauseous right now and I'm hoping to lead you to victory, Kendrick.
If I take another one down, I'ma drown in some poison, abusing my limit. I think that I'm feeling the vibe. I see the love in her eyes. I see the feeling of freedom is granted as soon as the damage of vodka arrived. This how you capitalize. This is parental advice. And apparently, I'm over-influenced by what you are doing. I thought I was doing the most, and someone said to me,
nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First, we get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all flock. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it.
Pour,
drink,
headshot,
drink,
sit down,
drink,
stand up,
drink,
pass out,
drink,
wake up,
drink,
faded,
drink,
faded,
drink,
chopper, 100 shots, bang, hop out, do you, bang, two chopper, 200 shots, bang, I ride, you ride, bang, one chopper, 100 shots, bang, hop out, do you, bang, two chopper, 200 shots, bang,
nigga, why you babysitting, only two or three shots, I'ma show you how to turn it up a notch, first you get a swimming pool,
sit down,
drink,
stand up,
drink,
pass out,
drink,
wake up,
drink,
faded,
drink,
faded,
drink.
Naël, une étudiante en DN Mail au lycée Camille Claudel, va nous présenter une chronique littéraire sur un roman.
Il y a des livres courts qui font plus de bruit qu'un coup de feu. Et Revolver de Marcus Sedgwick en fait clairement partie. Salut à tous et bienvenue dans ce petit moment de lecture. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un roman qui m'a marqué. Revolver, écrit par Marcus Sedgwick. Avant de vous parler d'histoire, on va prendre un petit moment pour découvrir un petit peu l'auteur. Marcus Sedgwick, c'est un écrivain britannique né en 1968. Il est surtout connu pour ses romans destinés aux adolescents et aux jeunes adultes. Avant de devenir écrivain à plein temps, il a travaillé dans l'édition et dans une librairie, ce qui lui a permis d'être assez proche du monde des livres. Il a publié également de nombreux romans et a reçu plusieurs récompenses littéraires importantes au Royaume-Uni. Ses histoires ont souvent une ambiance plutôt sombre ou mystérieuse, et elles abordent des thèmes assez profonds, comme la peur, la morale, la mort ou les choix difficiles. Il aime aussi situer ses récits, comme dans des lieux isolés ou dans des contextes historiques, ce qui rend ses histoires très immersives. Dans Revolver, on retrouve justement cette atmosphère tendue et cette réflexion sur les décisions qui peuvent changer une vie. L'histoire se déroule dans le Grand Nord. Au début du Xe siècle, on suit Sig, un garçon de 14 ans qui vit avec sa famille dans une cabane isolée, au milieu d'un paysage glacé et hostile. La vie est dure. Là-bas, il y a le froid, la solitude et le manque de voisinage. Mais un jour, le pire arrive. Le père de Sig meurt accidentellement. Sig se retrouve seul avec sa sœur à des kilomètres de la ville la plus proche. Mais juste après la mort de son père, Sig découvre quelque chose d'étrange. Sous l'oreiller de son père se retrouve un revolver chargé, une arme qu'il ne connaissait pas. Et très vite, quelqu'un va frapper à la porte. Un homme inquiétant arrive et affirme qu'il connaissait le père de Sig et qu'il est venu pour récupérer quelque chose qui lui appartenait. À partir de ce moment-là, la tension monte. Sig comprend que ce revolver n'est pas là par hasard et, sur ce qui se joue dans cette cabane, pourrait bien décider du destin de toute sa famille. Mais ce n'est pas seulement un thriller, c'est aussi une histoire sur le courage et sur les choix. Sig n'est qu'un adolescent, pourtant il doit prendre une décision que même un adulte trouverait difficile. Soit faire confiance, ou se défendre. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est plutôt l'ambiance. On ressent le froid, le silence et l'isolement de cette cabane perdue dans la neige. L'auteur arrive à créer une tension très forte, avec très peu de personnages et un espace très limité. Le roman il est aussi intéressant parce qu'il parle du passage à l'âge adulte, car Sig n'est qu'un adolescent, mais il doit prendre une décision très difficile, savoir s'il peut faire confiance à cet homme ou s'il doit protéger sa famille. Si je devais donner un avis un petit peu objectif, je dirais que le livre est très efficace et qu'il se lit très vite. L'histoire, elle est bien construite et la tension fonctionne très bien. En revanche, certains personnages secondaires sont un peu moins développés parce que le récit se concentre surtout sur Sig et sur son choix. Voilà, c'était ma petite recommandation du jour. Merci d'avoir pris ce moment de lecture avec moi et on se retrouve très bientôt pour parler d'un nouveau livre.
Vous êtes toujours sur Studio Zef et l'équipe Camille Claudel, Studio Camille, pardon, continue son émission avec la chronique des secondes, également élèves dans le même lycée, sur les Commonwealth Games.
Nous sommes trois élèves de seconde, moi, Lilou et mes deux copines Aimée et Mayana. Et dans le cadre d'un cours d'anglais, on a parlé des jeux du Commonwealth et du Commonwealth. D'abord, pour commencer, le Commonwealth, c'est une organisation de 56 pays qui découle de l'Empire britannique. Et tous les 4 ans, ils se réunissent un peu comme les Jeux olympiques pour faire les jeux du Commonwealth. Donc ces jeux, ils découlent aussi des jeux de l'Empire britannique, dont le premier était en 1930. Et on a essayé d'imaginer ce que pourrait être le discours d'ouverture des prochains jeux du Commonwealth qui se déroulent en juillet 2026, donc très prochainement, à Glasgow, en Écosse. Donc là, ça va être Aimée qui va nous lire le discours qu'elle a pu imaginer pour cette ouverture.
The King has asked me to read his message. Welcome to the Glasgow 2026 Commonwealth Games. I hope you like Glasgow, the perfect city for the Games, because it is multicultural and respects our Commonwealth Charter in many points, like international, peace and security. Athletes have to accept the rule of the law in the 10 different sports. The Games include everybody, whatever their origins, whether they are men or women. There are also Paralympic Games for many sports. The International Paralympic Committee helped us, so thank you so much. And ladies and gentlemen, athletes, I ask you to have tolerance, respect and understanding because sports is far more than competition and medals. Athletes do that for passion, they need courage. So now is the time to announce the opening of the Games.
Merci Aimé pour ce discours que tu nous as présenté sur la ville de Glasgow qui est une ville idéale pour accueillir les Jeux du Commonwealth en 2026 qui représente une grande diversité de jeux grâce aux Jeux paralympiques qui ont été installés cette année et surtout l'égalité hommes-femmes. Et maintenant nous allons découvrir le deuxième discours d'ouverture de Lilou.
His Majesty the King has asked me to read his message for the opening of the Commonwealth Games. So please, I ask for respect and silence for the King's speech. Ladies and gentlemen, welcome to Glasgow for the 2026 Commonwealth Games. Firstly, I would like to speak to the athletes. Dear runners, dear boxers, dear basketball players and many others, thank you. You are heroes. You are wonderful, you create emotions and, the most essential to my eyes, you embody one of the values of the Commonwealth Charter, tolerance, respect and understanding. Moreover, I will take 1 minute to speak about the beautiful city which has opened its door for us, Glasgow. Thank you so much, Glasgow, this city which is so multicultural. And is this multiculturalism respect another point of the Charter? Human rights like the access to health, education, food and shelter. To conclude this speech, I want to reaffirm the core value of this Charter. The importance of young people in the Commonwealth. It is you, the future of the world, so we can't forget the young generations. Thank you for your attention and have very good games. I will now declare the 23rd Commonwealth Games open.
Merci Lilou pour ton discours. Tu as voulu nous montrer l'importance des jeunes et de la nouvelle génération dans les Jeux du Commonwealth. Et tu as insisté sur le fait que les athlètes incarnent très bien les valeurs de la charte du Commonwealth.
We all share the same dream to succeed. If you have the power and the speed, with the will to lead, you could be the number one champion. Higher, faster, further, stronger. Bigger, better, deeper, longer. If you've taken on the best and you've risen to the test, you could be the number one champion. It's from the moment you rise to when you step on that starting line. Just one thought passes through your mind. Today is gonna be all mine. It's not about win or lose. To always better yourself is the path you choose. Put one foot forward and do whatever you were meant to. Higher, faster, further, stronger. Bigger, better, deeper, longer. If you've taken on the best and you've risen to the test, you could be the number one champion. Welcome to my city, Birmingham. Calling all my Commonwealth fam. Summertime when the city of a ram. We head to the Alexander Stadium. Come follow me, Jamboree. Commonwealth, the people's party. Rise up and stand on your feet. Can we come for compete?
Play your position, play your part, play it smart. You can stand your ground or you can fall apart. You can stop and start or be consistent from the start. Hard work beats talent if talent don't work hard. But trusting your vision, no, it ain't no facade. Came to leave your mark, been ready from on your box. Cause you can be the number one champion. Whoa.
higher, faster, further, stronger. Bigger, better, deeper, longer. If you've taken on the best and you've risen to the test, you could be the number one champion. Higher, faster, further, stronger. Bigger, better, deeper, longer. If you've taken on the best and you've risen to the test, you could be the number one champion. Higher, faster, further, stronger. Bigger, better, deeper, longer.
Nous retrouvons maintenant Loan pour une chronique sur les dinosaures et Mayeni va lui prêter sa voix.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des terribles lézards, ou dit communément les dinosaures. Ce sont les plus grands animaux ayant régné sur Terre et ce pendant 165 millions d'années. D'ailleurs, au risque d'en décevoir certains, saviez-vous que la plupart des dinosaures que l'on voit dans les films Jurassic Park et Jurassic World n'ont pas existé pendant le Jurassique, mais au Crétacé, comme le T-Rex, le Vélociraptor, le Parasaurolophus ou encore le Triceratops. Le Crétacé est une période de l'ère Mésozoïque qui est divisée en trois périodes. Dans l'ordre chronologique, le Trias, le Jurassique et donc le Crétacé. Le Crétacé s'étend d'environ -145 à -66 millions d'années et se termine avec la disparition des dinosaures non aviens, ce qui veut dire que cela exclut les oiseaux, mais aussi la disparition des ptérosaures, de la plupart des reptiles marins et d'autres formes de vie. Oui, oui, calme-toi le T-Rex, on y vient. Les dinosaures sont des animaux terrestres. Donc, les ptérosaures qui sont des reptiles volants et les mosasaures qui sont des reptiles marins ne sont pas des dinosaures. D'ailleurs, on va vous parler de trois dinosaures de cette période, le Spinosaurus, l'Argentinosaurus et le Vélociraptor.
Mais avant de vous en dire plus, sachez que pendant le Crétacé, il y a eu la séparation des continents qui continua, entraînant la diversification des milieux naturels. Alors chaque masse de terre présentait des caractéristiques différentes au niveau physique et climatique, créant le milieu tropical, polaire et autres. Cette diversification entraîna une évolution différente des espèces en fonction des endroits où elles se trouvaient, menant à de nouvelles espèces. Pour info, au Crétacé, la température globale moyenne était de 18 degrés Celsius, alors qu'aujourd'hui, la température moyenne à la surface de la Terre est d'environ 15 degrés Celsius.
Bon, on revient à nos dinosaures. Imaginez que vous êtes tranquille en pleine forêt, et là, vous tombez en face d'un vélociraptor.
Vous y avez peut-être déjà pensé, mais ne vous inquiétez pas, car ce n'est pas encore possible. Bien que des scientifiques rêvent de recréer des dinosaures à partir d'ADN retrouvé sur des fossiles. Mais l'ADN se détériore trop rapidement pour que l'on puisse l'exploiter sur des fossiles âgés de millions d'années.
Le Vélociraptor, ou voleur rapide, était un chasseur redoutable. Il était armé de ses 56 dents aiguisées comme des couteaux, et de ses griffes tueuses pour attaquer et achever ses proies. D'ailleurs, en 1971, un fossile a été découvert. C'était un Vélociraptor en pleine attaque d'un Protocératops. Aussi, les scientifiques supposent qu'il existait seulement 5% d'espèces carnivores parmi l'ensemble des espèces de dinosaures.
Le deuxième dinosaure dont tu voulais parler, Loan, c'est l'Argentinosaurus, ou lézard d'Argentine, qui est spectaculaire de par sa taille. Tout ce que nous savons sur ces dinosaures a été découvert grâce à quelques côtes, quelques os de la colonne vertébrale et deux os des membres. On estime qu'il faisait 35 mètres de longueur et qu'il devait peser entre 100 et 60 tonnes. Pour vous faire une idée, il était aussi lourd que 6 camions de pompiers.
Dernier dinosaure que je voulais évoquer, c'est le Spinosaurus, ou lézard à épines, qui était plus lourd et long que le Tyrannosaurus rex. Sa longueur était de 15 mètres, comparée à 13 pour le T-Rex. Il pourrait être le plus grand prédateur terrestre de par sa taille sur Terre. Aussi, c'était un nageur, ce qui est rare pour les dinosaures qui se contentaient généralement de chasser dans des eaux peu profondes. Il devait passer la majorité de ses journées dans les rivières et les estuaires à la recherche de nourriture. Il se nourrissait de dinosaures, de ptérosaures et de poissons. Un chasseur tout à fait féroce. Pour finir cette chronique, parlons de l'extinction des dinosaures qui a donné lieu à de nombreuses hypothèses. Mais les scientifiques sont d'accord pour dire qu'elle serait multifactorielle et qu'elle aurait pris des milliers d'années. Des épisodes de volcanisme auraient duré sur 800 000 ans. De plus, il y eut une chute d'une météorite de 10 à 15 km de diamètre au Mexique. Ces deux événements auraient créé un nuage de fumée si épais que les rayons du soleil ne passaient plus. Ainsi, il ne pouvait plus y avoir de photosynthèse, donc plus de végétation. Les herbivores auraient commencé à mourir de faim, ainsi que par la suite les carnivores qui n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Mais n'ayez crainte, vous êtes fan de dinosaures ? Regardez par la fenêtre. Les oiseaux descendent tous d'un groupe de dinosaures qui est apparu à la fin du Jurassique. Du coup, ils sont tous des dinosaures. C'était Lohan et je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie aussi Mayini d'avoir participé à ma chronique.
Maintenant, Isaac, un étudiant d'ENMAIL du lycée Camille Claudel, va ensuite nous présenter une chronique littéraire sur une BD.
Avez-vous déjà regardé Aladdin ? Sinon, mettez-vous à jour. Il est connu à l'international et il fait partie des meilleurs films Disney. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire, vous vous souvenez des trois vœux qu'il a fait auprès du génie ? Qu'auriez-vous fait à sa place ? Si vous aviez qu'un seul souhait à faire, vous auriez souhaité la gloire, l'argent, dominer le monde ? Eh bien, la bande dessinée 8 Billion Genius, écrite par Charles Soule et illustrée par Ryan Brown, nous plonge dans un récit où 8 milliards d'êtres humains ont la possibilité de faire un seul souhait. L'histoire commence dans le bar Le Lamp Why, où le personnage de Bobby, Mr. William et bien d'autres nous sont présentés, chacun avec sa personnalité, son caractère. Mais le sujet même de l'apparition des génies se fait au moment où un nouveau-né arrive au monde, pour conclure cette fois le compte des 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Et à partir de là, chacun a la possibilité de faire un seul souhait, un seul. Ce concept nous permet de comprendre quel sujet Charles Soule aime aborder, la psychologie humaine. Et on remarque déjà des visions opposées chez certains personnages, comme Mr. William, le barman, qui fait le vœu que tous les souhaits qui sont faits en dehors du bar ne puissent affecter cette dernière, ni les personnes se trouvant à l'intérieur. Et à côté, on a Daisy, l'une des guitaristes du groupe Badaboom, qui fait le souhait que Brian, le bassiste, tombe follement amoureux d'elle. Un côté, un souhait collectif, et de l'autre, un souhait égoïste. Si je dois donner mon avis sur cette bande dessinée slash comics, ce serait waouh. J'avais pour ma première lecture un avis négatif sur la moitié du déroulement de l'œuvre. Mais après ma relecture, je ne peux que féliciter le travail de l'auteur et de l'illustrateur. 8 Billion Genius possède l'une des idées scénaristiques les plus intéressantes pour ma part. Tout ce qui tourne autour de la psychologie, les relations humaines sont des sujets qui me fascinent. Le fait que Charles Soule, tout au long de son œuvre, nous donne à voir des façons de penser différentes suivant certaines situations, en jouant sur le réalisme des émotions des personnages. La frustration, la peur, la compassion donnent de la profondeur à ces derniers, et on s'attache à certains d'entre eux. Pour moi, Monsieur William est de loin mon personnage préféré. Tout simplement pour ses réflexions, sa connaissance et ses prises de décision font ressortir une personnalité de leader. Pour le découpage des cases, cette fois le mérite ne revient pas à Charles Soule, mais à son illustrateur Ryan Brown. Les castes sont dynamiques quand il le faut pour rendre les scènes de plus en plus dynamiques. Que ce soit pour les scènes d'action ou les moments beaucoup plus calmes, on ressent les émotions, on ressent l'intensité à chaque instant. Mais dans ce comics slash bande dessinée, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'explication de l'apparition des génies, à la toute fin. Non pas où et comment ont-ils été créés, mais plutôt leur but. Pourquoi leur apparition aux 8 milliards d'êtres humains? Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse profiter de la lecture de 8 Billion Genius, et je vous dis au revoir. C'était Isaac Yala, merci de m'avoir écouté.
Nous terminons maintenant en écoutant Maxime qui va nous présenter l'archipel de Vanuatu.
La routine. Franchement, on l'a tous. Se lever, courir, travail, écran, répétition, notification. On rêve tous d'évasion, de plages paradisiaques sous les tropiques. La mer, le soleil, un cocktail à la main, loin des plages bondées du sud de la France. Mais pour nous, tout ça rime avec la Martinique, la Réunion ou les Maldives. Mais si je vous disais qu'il existe une autre destination, peu connue, peu touristique et encore plus sauvage. Un endroit où la vie semble lente, naturelle, presque inexplorée. Je vous parle de Vanuatu, une archipel de 83 îles dans l'océan Pacifique à l'est de l'Australie. En plus, c'est une ancienne colonie française, donc on y parle français. Avec seulement 310 000 habitants, cet archipel représente la ville de Florence, étalée sur 80 îles. Avec peu de touristes, vous pourrez être seul avec des paysages à couper le souffle ou au bord des plages paradisiaques. C'est bien tout ça, mais en activité, on y fait quoi sur ces îles? Il y a le mont Yasur, un volcan actif qui vous offrira des spectacles magnifiques. Plage sauvage, eau turquoise autour de 26 degrés et différentes traditions locales, vous aurez de quoi vous occuper. L'hiver n'existe pas à Vanuatu. Les températures les plus basses tournent autour de 22 degrés en saison humide et stagnent entre 25 et 30 degrés en saison sèche. Niveau tarif, comptez entre 1300 et 1500 euros l'aller-retour de Paris, où vous embarquerez pour un voyage de 30 à 40 heures en comptant les escales. La vie sur place, 10 euros pour un repas local, 40 à 80 euros la nuit en fonction du logement, 35 à 45 euros par personne pour des plongées sous-marines et seulement 10 à 15 euros par personne pour des visites guidées des différentes îles. Vanuatu est donc une destination peu connue et paradisiaque. Cet archipel vous offrira du calme, du dépaysement et des paysages incroyables. Cela dit, prenez vos billets car ce paradis est encore peu connu pour ne pas le rester très longtemps.
Au revoir et rendez-vous le 11 mai
pour un grand plateau en direct du lycée.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night.
The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the strength, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why.